Bonjour Anne Jente.
Bonjour.
La Birmanie fait partie de votre circonscription des Français de l'étranger. Quelle est la situation de nos ressortissants établis en Birmanie après le coup d'État qui vient d'y avoir lieu ?
Alors, dès hier, notre poste diplomatique sur place avait envoyé un message à toute la communauté, lui recommandant de se protéger, de rester attentive aux messages envoyés par notre consulat sur place. La situation est relativement calme pour le moment. Il n'y a pas de crainte à avoir pour notre communauté du tout.
Combien sont les Français ? Combien y en a-t-il en Birmanie ?
Assez peu, aux alentours de 1000 à peu près. C'est un pays qui est très attachant, qui est très intéressant, dans lequel la communauté française avait encore peine à s'établir face à un développement très important de la communauté chinoise d'ailleurs.
Et en l'état actuel des choses, ils sont libres de leur mouvement. S'ils voulaient quitter
Absolument.
Le pays, ils seraient en mesure de le faire.
Avec la restriction que nous connaissons actuellement du contrôle aux frontières.
Justement, c'est la deuxième partie de la question, en effet.
Voilà. Donc, bien entendu, ils pourraient le faire s'il y avait des avions et des autorisations qui leur permettent de le faire. Néanmoins, autour, dans la région, ils peuvent très localement se déplacer. Mais pour revenir en France, comme vous le savez, c'est un petit peu plus compliqué temporairement.
Alors, précisément, quelles sont aujourd'hui les conséquences pratiques de ces nouveaux contrôles aux frontières mis en place depuis dimanche pour les Français qui vivent à l'étranger, en dehors de l'Union européenne, puisque pour ceux qui sont au sein de l'Union européenne, c'est finalement assez simple.
Alors, en dehors de l'Union européenne, reste obligatoire la présentation sur un plan sanitaire d'un test PCR négatif de moins de 72 heures. C'était déjà en place, ça continue. De plus, ça a été ajouté à ça, il faut vraiment un motif impérieux pour se déplacer, revenir vers la France. Ce motif impérieux, il y a une liste indicative qui a été donnée. Pour faire simple, c'est d'abord les situations très graves. Évidemment, vous avez un parent malade, un proche, peu importe, ascendant, descendant, frère, sœur. Évidemment, vous pouvez revenir. Si vous avez un motif professionnel, je pense par exemple aux personnes qui ont trouvé un emploi en France, qui ont décidé de repartir définitivement en France, bien évidemment, ils peuvent le faire, avec leur conjoint, si leur conjoint étranger a un visa en forme. Évidemment, tout ceci est encore possible. Donc, des motifs impérieux, en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? On n'y va pas pour les loisirs, on n'y va pas pour des vacances, et quand un voyage professionnel est prévu, il faut qu'il soit vraiment absolument nécessaire.
Et est-ce qu'un coup d'État, dans un pays dans lequel vous vivez, est considéré comme un motif impérieux ?
À partir du moment où la sécurité de nos ressortissants serait en danger, bien évidemment. D'ailleurs, C'est prévu dans la liste, un motif administratif local peut l'exiger.
Mais dans le cas de la Birmanie, si on vous entend bien, vous dites que pour l'instant la situation est assez calme, donc on pourrait considérer que ils ne sont pas en danger et que par conséquent, le retour en France ne relèverait pas d'un motif impérieux.
On pourrait, il faut être très très prudent si vous voulez. Il est bien évident que c'est une situation qui peut évoluer d'heure en heure et tout dépend également de la profession de la personne, dans quel secteur elle exerce. Il peut y avoir un coup d'État, je n'ai pas connaissance pour le moment, mais un coup d'État qui peut avoir des conséquences sur certains secteurs d'activité professionnelle, auquel cas la personne se retrouvant sans emploi. D'ailleurs, en général, dans ces pays-là, lorsque vous êtes étranger et que vous perdez votre emploi, vous perdez votre titre de séjour. Donc vous êtes obligé de toute façon de quitter le pays et bien évidemment, c'est autorisé et c'est prévu.
Anne Jente, je rappelle que vous êtes médecin. Est-ce que la décision de ne pas reconfiner samedi dernier vous a surpris ?
Non, puisque trois chemins avaient été tracés. Le premier, c'était le statu quo. Le deuxième, c'était un renforcement des mesures restrictives. Et le troisième était un confinement. Je suis restée toujours attentive à ces trois possibilités. Et je suis personnellement tout à fait satisfaite de ce choix qui me semble en plus au titre à la fois de citoyenne et de médecin raisonnable, un équilibre a été trouvé entre les exigences sanitaires d'un côté et les exigences sociales et économiques de l'autre.
Le président de la République a-t-il fait, avec ce choix, un pari sur la responsabilité des Français ?
Il a fait une confiance. C'est un contrat de confiance qu'il nous a lancé. C'est ça qu'il nous demande. Il nous dit, nous avons collectivement la solution entre nos mains. Donc, soyons encore plus vigilants que d'habitude et on peut peut-être y arriver. J'ai regardé encore les chiffres hier soir, je comprends vraiment la décision du président de la République. Quand on voit les courbes, on voit bien que certaines courbes sont, là, cette fois-ci, totalement stationnaires. Le nombre de nouveaux cas positifs qui était légèrement montant sur un faux plat jusqu'à présent, là, il est vraiment plat. Donc, ayons espoir.
Et pourtant, on entend régulièrement des scientifiques, des médecins dire que un nouveau confinement est aujourd'hui inévitable. Vous n'êtes pas de cet avis ?
Les scientifiques sont dans leur rôle. Ils sont là, les médecins, pour regarder l'aspect sous le prisme sanitaire. Et c'est leur rôle. bien évidemment, et ils nous donnent, d'ailleurs ce sont eux qui nous donnent, des scénarios différents, des projections différentes. Ils sont dans leur rôle en disant, oui, il faut aller vers un confinement. Mais il y a aussi ceux qui regardent la situation sous l'angle social, sous l'angle psychologique, sous l'angle économique, et c'est bien l'équilibre des quatre composants que je viens de citer qu'il faut prendre en compte et qui est de la responsabilité de la décision du président de la République. Donc, qu'ils disent qu'il est inévitable, je n'en suis pas si certaine. À voir, moi j'attends de voir les chiffres. Vous savez, depuis le début avec cette épidémie, qui peut avoir des certitudes? Vraiment très peu de monde.
Le projet de loi bioéthique est examiné à partir d'aujourd'hui au Sénat. C'est un texte qui continue de diviser assez profondément les Français. On l'a vu encore ce week-end avec des manifestations d'opposants d'un côté, de partisans de l'autre, qui d'ailleurs parfois se sont même affrontés. Est-ce que vous pensez que c'était le bon moment pour relancer ce débat alors que la France fait face à cette crise sanitaire sans précédent? Est-ce qu'il y avait vraiment une urgence à mettre ce texte à l'agenda parlementaire?
Je crois qu'il est important que dans un état, une situation aussi compliquée que celle que nous vivons en ce moment, certainement, il faut aussi montrer que la démocratie vit et qu'elle suit son cours. La démocratie n'a pas à être confinée, elle, certainement pas. Et donc, ce texte devait suivre son chemin et arrivait maintenant en deuxième lecture au Sénat. Le Sénat aurait pu d'ailleurs choisir de le repousser sur son agenda. Monsieur Larcher a plus d'une fois fait preuve d'indépendance d'esprit, je dirais, par rapport au gouvernement. Donc, il aurait pu le faire. Il ne l'a pas fait. Et donc, je crois que ce choix de faire vivre la démocratie le plus normalement possible est essentiel à mes yeux.
En janvier dernier, la commission spéciale du Sénat a rétabli plusieurs de ses lignes rouges, d'une certaine manière, comme le non-remboursement par l'assurance maladie des PMA, des procréations médicalement assistées, pour d'autres motifs que l'infertilité. Est-ce que vous êtes favorable à la gratuité sans aucune condition ?
Et oui, je rejoins en cela ce qu'a dit le ministre Adrien Taquet hier au Sénat, qui est de dire attention, si nous exigeons des conditions pour accéder au remboursement, alors nous créons une discrimination, une distinction qui fait qu'encore une fois, certaines personnes qui en ont les moyens vont avoir accès à cette solution et d'autres ne pourront pas, avec le risque de dérive de personnes qui vont chercher des solutions ailleurs, voire à l'étranger. C'est justement ce que nous ne voulons pas. Nous voulons, c'est une loi d'égalité de droit. Et donc le remboursement, pour toutes les situations, est absolument nécessaire.
Anne John Tett, tous ceux qui, dans ce débat, déplorent la disparition du père, sont-ils, à vos yeux, des conservateurs rétrogrades ?
Je crois que quand on observe la société française aujourd'hui, nous savons qu'aujourd'hui, près de un enfant sur deux vit avec un seul de ses deux parents. C'est ainsi. C'est un fait que nous devons observer. Et quand nous voyons ces enfants-là, nous ne pouvons pas dire que ces enfants sont plus ou moins bien traités que ceux qui ont leurs deux parents. Oui. Donc, la société a évolué vers un modèle familial qui est différent, merci, qui est soit un, soit deux parents. Et donc, il est tout à fait normal qu'on envisage ce projet de loi sous cet angle-là également pour les parents et les femmes seules.
Merci Anne Gentet. Bonne journée.